sur lesquels nous pouvons chacun solidement bâtir notre rapport à l'Écriture, notre rapport à la Bible, qui est la parole de Dieu, alors que ce soit par notre écoute, comme lors d'un culte, ou alors par notre lecture ou notre méditation à la maison tout au long de la semaine. En effet, dans ce passage, Jacques nous dit quelle doit être notre réponse à la parole que Dieu nous adresse. Et c'est une réponse qu'il donne en trois parties. On va rapidement les passer en revue. Vous l'aviez compris dans le canevas, c'était plutôt évident. La première partie de la réponse, elle se trouve donc au verset 19. Il s'agit de l'écoute, écouter. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Écoutez. Dans ma relation à Dieu, tout commence et tout doit commencer par l'écoute. L'écoute de Dieu, l'écoute de sa parole. Et si cette écoute n'est pas là, alors tout ce qui doit découler de l'écoute ne sera pas là non plus. Il faut commencer par l'écoute. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit dans Romains 10, au verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend par la parole de Christ. Tout commence par l'écoute. Tout commence par l'écoute, mais aussi tout doit continuer par l'écoute. Continuer par l'écoute parce que ici, Jacques ne parle pas à des gens qu'il veut convertir, il parle à des gens qu'il nomme des frères bien-aimés au verset 19. Ce sont donc déjà des frères dans la foi. Il le dit clairement ici, il l'a dit dans le verset qui précède, puisqu'il est question de ceux qui ont été régénérés par la parole de la vérité. Ce sont donc à des chrétiens qui ont déjà accueilli la parole pour le salut. Donc il ne s'agit pas ici d'écouter pour le salut, pour que naisse la foi en moi, mais d'écouter pour vivre de cette foi qui est en moi, pour vivre par la foi. Jacques dit donc que la première partie de la réponse adéquate à donner à la parole de Dieu, c'est l'écoute. C'est-à-dire, c'est se rendre disponible, c'est se mettre en condition, en position, en situation de la recevoir, de me laisser interpeller par elle. S'il est question ici d'écoute, il ne s'agit bien évidemment pas de n'importe quelle écoute, comme une écoute en passant, une écoute en pensant à autre chose, une écoute comme l'écoute qu'on a dans un magasin quand on entend bien la musique d'ambiance, mais voilà, c'est juste un bruit de fond. C'est pas de cette écoute, bien évidemment, dont il est question. L'écoute à laquelle Jacques nous appelle est une écoute attentive et il le dit ainsi que chacun soit prompt à écouter. Prompt à écouter, c'est vrai en général de toute écoute que nous essayons de faire quand nous nous parlons les uns avec les autres. Il faut être là, il faut être disponible pour ce que j'entends, sinon je ne suis pas prompt à écouter. Et c'est vrai en particulier de l'écoute de ce que Dieu dit. Et dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament déjà, Dieu n'a cessé de dire cela à son peuple. Il n'a cessé d'appeler son peuple à l'écoute attentive de sa voix, de sa parole. Dans l'Ancien Testament, on aurait pu citer de nombreux textes. Et puis Jésus, dans les Évangiles, « Prenez garde, dit-il, à ce que vous entendez. » Marc 4, 24. Ou encore « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » Luc 8, verset 18. Parce que ça a été dit très certainement dans chaque groupe, on peut entendre sans écouter, ou on peut écouter sans entendre. Alors, il y a peut-être différentes compréhensions, mais il faut faire une nuance entre les deux. Peu importe du sens qu'on le prend, on peut entendre sans écouter ou écouter sans entendre. On peut même être assis là maintenant, dans ce lieu de culte, et ne pas écouter, ne pas être vraiment là pour entendre ce qui est en train d'être dit, ce qui est dit de la parole de Dieu. L'écoute, la vraie, la sérieuse, demande de la volonté, demande de l'attention et elle demande des efforts. Et c'est de cette écoute-là dont parle Jacques. Une écoute que je dois désirer, une écoute qui ne va pas venir comme ça tout seul. Je dois le vouloir. Je dois me mettre en situation de recevoir cette parole, que chacun soit prompt à écouter. Cela veut dire, par exemple, que je ne lis pas la Bible simplement pour l'avoir lue. Je ne lis pas la Bible pour avoir ma conscience tranquille. Ça y est, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, je suis tranquille. Voilà, on fera ça de nouveau demain. Et puis, je peux le barrer de ma liste de choses à faire. Ce n'est pas de cette écoute-là, bien évidemment, dont il s'agit. Être prompt à écouter, c'est venir au texte biblique avec le désir d'être nourri spirituellement, avec le désir que Dieu me parle, que Dieu me transforme par sa parole, avec le désir que Dieu accomplisse son œuvre dans ma vie, dans mon cœur. Chers amis, ce matin, est-ce que c'est avec cette disposition de cœur que je suis venu à ce culte? Est-ce avec cette faim de la parole de Dieu, cette soif de Dieu que j'ouvre ma Bible jour après jour? Peut-être dois-je ce matin demander pardon à Dieu pour le manque de promptitude avec lequel je m'approche de lui et de sa parole. Peut-être dois-je demander à Dieu de créer en moi un esprit bien disposé, mieux disposé à écouter sa parole. La première partie donc de notre réponse, c'est cette écoute attentive. Et la deuxième, c'est l'accueil de la parole, accueillir. Versets 21 et 22, « Aussi rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. » En parlant d'accueillir la parole, Jacques nous met ici en garde contre un danger. Lequel, celui qui consiste à croire qu'écouter est suffisant. En réalité, Jacques ici s'adresse à la mentalité juive de l'époque, qui croyait que l'exposition de la loi était la chose la plus importante et qu'elle était suffisante, ou presque, pour ainsi dire suffisante. Et c'est pour ça qu'on passait beaucoup de temps à expliquer la loi, à l'exposer, et peut-être beaucoup moins à la mettre en pratique ou à chercher à la mettre en pratique. Et donc, il n'est pas étonnant que Jésus et Paul, dans le Nouveau Testament, aient déjà abordé ce danger, cette difficulté. Luc 11, versets 27 et 28, c'est Jésus qui parle, enfin, c'est dans les Évangiles, et ça sera Jésus qui parlera au verset 28, tandis qu'il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. » Mais il, donc Jésus, répondit, « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui l'observent. » On comprend bien la même problématique ici. Et puis l'apôtre Paul, dans Romains 2, verset 13, « En effet, ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés. » Écouter, ça ne suffit pas. Il faut accueillir la parole, la faire mienne, la mettre en pratique. Et Jacques ajoute ici que celui qui se contente de l'écoute s'abuse lui-même, il se trompe lui-même par de faux raisonnements. Verset 22, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Il faut plus que l'écoute, aussi attentive soit-elle, il faut accueillir la parole dans mon cœur. Verset 21, ainsi rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Alors que veut dire accueillir la parole? Si on regarde attentivement ce verset 21, on comprend que l'accueil de la parole va de pair avec une autre action. Et cette autre action, c'est le rejet de toute saleté et tout débordement de malfaisance. Alors en français courant, ça donne « rejeter tout ce qui salit et toute action mauvaise ». Tout ce qui salit le cœur, bien évidemment. Le verbe « rejeter » qui est utilisé ici signifie littéralement « enlever », « ôter ». Et c'est un verbe qu'on utilisait pour enlever ses habits, ôter, se dévêtir. Et donc l'image qui est utilisée ici, c'est cette image d'habit sale dont on va se défaire pour en revêtir ensuite des propres. C'est une image qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament, par exemple dans Romains 13, verset 12, où l'apôtre Paul dit « La nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons », c'est le même verbe, « enlevons, déshabillons-nous, donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de lumière. » Et puis ce même verbe, on le retrouve aussi dans les Colossiens, où il dit « Mais maintenant, vous aussi, rejetez, donc déshabillez-vous, enlevez, supprimez cela. » De quoi parle-t-il? Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau. Alors revenons à Jacques. Que dit-il de cet accueil de la parole? Il dit que les deux actions vont de pair, elles vont ensemble. D'un côté, je rejette, je me dévais de ce qui déplaît à Dieu. Rejeter tout ce qui salit et toute action mauvaise. Et de l'autre, j'accueille, je revêts ce qui est droit, juste, bon, la parole de Dieu avec ses instructions, avec sa volonté. Accueillir la parole, m'en revêtir, c'est donc accepter l'autorité de Dieu sur ma vie et c'est m'y soumettre. Si telle est mon attitude vis-à-vis de la parole, si tel est mon accueil de la parole, alors il y aura nécessairement des choses qui vont changer dans ma vie. Il va y avoir nécessairement des choses dont je vais vouloir me dévêtir parce que j'ai accueilli cette parole de Dieu. Accueillir et rejeter vont donc ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas accepter la parole. Je ne peux pas l'accueillir dans ma vie et ne pas faire ce qu'elle m'invite à faire. Sinon, ce n'est pas de l'accueil. Ce serait de l'hypocrisie. Comme pour l'écoute qui doit être prompte, l'accueil de la parole est donc également qualifié dans notre texte. Il est dit d'accueillir avec douceur au verset 21 cette parole. Alors, c'est quoi cette douceur dont il est question ici? Et j'aimerais suggérer que c'est simplement avoir une attitude d'humilité qui consiste à accepter de me placer sous l'autorité de la parole. C'est accepter de me soumettre à ce que la parole me dit et me demande. C'est reconnaître et accepter que Dieu ait des choses à dire, à me dire. C'est accepter le regard de Dieu sur ma vie. C'est accepter le droit de regard de Dieu sur ma vie. C'est accepter de laisser Dieu mettre le doigt sur ce qui devrait changer dans ma vie. C'est ça, accepter la parole avec douceur. Si je suis venu pour entendre la parole de Dieu ce matin, est-ce que je suis venu pour l'accueillir dans ma vie, dans mon cœur? Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai compris aujourd'hui au travers des groupes de discussion, au travers du message, au travers de la première partie de ce culte? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire des choses que Dieu m'a fait comprendre ce matin, au sujet de sa parole, par exemple? Est-ce que je vais tout mettre en œuvre pour en tenir compte, aujourd'hui, demain et chaque jour de ma vie? Ou alors est-ce que je vais passer à autre chose, dès l'instant où j'aurai quitté ces lieux? Que Dieu nous aide chacun à réellement sincèrement, sérieusement, accueillir la parole de Dieu dans notre vie, pour que nous puissions aussi rejeter ce qui déplaît à Dieu. Après l'écoute, la deuxième partie donc de notre réponse, c'est l'accueil, et la troisième, c'est la mise en pratique. Versets 22 à 25, « Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. » Comment comprendre cette illustration du miroir que Jacques utilise ici au verset 23? Cette illustration du miroir, elle souligne deux attitudes radicalement opposées face à la parole. D'un côté, il y a celui qui ne fait qu'écouter la parole. C'est ce dont il est question au verset 23 et 24. Et de l'autre, il y a celui ou celle qui écoute et qui met en pratique. Celui qui ne fait qu'écouter la parole sans la mettre en pratique, dit Jacques, est semblable à quelqu'un qui va se regarder dans un miroir et puis qui s'en va comme s'il n'avait rien vu, sans tenir compte de ce qu'il a vu dans le miroir. Peut-être qu'il aurait mieux fait de se passer un coup de peigne dans les cheveux, de brosse, mais bon, non, voilà. Il s'en va sans tenir compte de ce qu'est la vie, et il va vivre sa vie, il va vivre sa journée, sans tenir compte de ce qu'il a vu dans ce miroir. Le miroir, bien évidemment, ici, c'est une image, c'est une métaphore de la Bible, de la parole de Dieu. En la lisant, en l'écoutant, l'homme se voit tel que Dieu le voit. Il se voit tel qu'il est vraiment. C'est l'image que lui renvoie le miroir de la parole. Il est alors en mesure de comprendre qui il est vraiment. Il est en mesure de comprendre qu'il est pécheur et qu'il est perdu devant Dieu. Voilà ce qu'il voit dans le miroir de la parole. Et il peut alors soit tenir compte de ce qu'il a vu et s'en remettre à la grâce de Dieu pour le salut, soit repartir comme s'il n'avait rien vu de tout cela et comme si tout cela ne le concernait pas. Cette démarche qui est vraie pour le salut l'est aussi pour toute la vie chrétienne. C'est vrai tout au long de la vie chrétienne. Je peux, en tant que disciple du Christ, me laisser ou ne pas me laisser interpeller par ce que je vois dans ce miroir de la parole. La troisième et dernière partie donc de la réponse adéquate à ce que Dieu dit, c'est de mettre la parole en pratique, c'est-à-dire de vivre de la parole, de laisser cette parole me révéler jour après jour ce qui est bon, mais aussi ce qui l'est moins et ce que Dieu désire voir changer dans ma vie. Laissez cette parole être un miroir pour ma vie, pour mon cœur, pour ensuite en tenir compte. Il est intéressant de noter ici que l'expression traduite là dans la Nouvelle Bible Seconde « et qui y demeure » au verset 25 signifie littéralement « qui continue avec », « qui reste à côté d'eux ». Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est continuer avec. C'est rester avec la parole que j'ai accueillie. C'est ça la mise en pratique de la parole. C'est rester avec cette parole en moi. C'est cheminer avec elle. C'est la laisser me montrer le chemin. Alors, quelle est la réponse adéquate à ce que Dieu me dit? Nous l'avons vu, c'est en trois étapes faciles à retenir: l'écoute, l'accueil, la mise en pratique de ce que j'ai reçu. Et Jacques dit, si je fais cela, si j'agis ainsi, si j'écoute, si j'accueille, si je mets en pratique, alors je serai heureux, dit Jacques. Verset 25, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Heureux d'obéir à ce qu'il a vu, accueilli dans cette parole. Heureux parce que Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que nous soyons frustrés par sa parole. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour nous écraser par sa parole. Il nous a donné sa parole pour que nous soyons heureux en la mettant en pratique. Heureux parce que c'est une parole qui nous fait vivre. C'est une parole qui nous met sur le chemin de la vie éternelle. C'est une parole qui éclaire notre chemin au quotidien. Quelle réponse donner à la parole, à ce que Dieu me dit dans sa parole, en l'écoutant, en désirant et en recherchant cette rencontre avec la parole, avec ce que Dieu a à me dire, que chacun soit prompt à écouter. Deuxièmement, en l'accueillant, en acceptant son droit de regard sur ma vie, accueillir avec douceur, avec humilité la parole. Et troisièmement, en la mettant en pratique, en vivant jour après jour, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En répondant de cette manière à ce que Dieu me dit, alors je serai semblable à un homme avisé, à un homme sage, je l'ai entendu dans un groupe, qui a bâti sa maison sur le roc. C'est à la fin du sermon sur la montagne que Jésus va utiliser cette image, cette illustration, et je termine simplement avec ça. Matthieu 7, versets 24 à 27, « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles, les paroles de ce sermon sur la montagne, et les met en pratique, sera comme un homme avisé, un homme sage, qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. » Pourquoi est-ce important de bien répondre à la parole que Dieu nous adresse? Car de notre réponse dépend la solidité de notre vie jour après jour, mais aussi et surtout de notre vie dans la perspective de l'éternité. Alors que le Seigneur nous aide chacun à bâtir sur le roc de sa parole, en l'accueillant et en la mettant en pratique jour après jour, et ce sera pour notre bonheur. Amen.